Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est bien contre histoire. J'avais prévu la semaine dernière de vous parler d'amour. Mais ce n'est pas vraiment de mise par ce temps de rentrée où nous avons d'autres soucis. Le pétrole, c'est déjà fait. Alors nous allons parler du chômage. Pour ça, je vais vous lire des extraits du formidable bouquin de Florence Aubenas. Florence Aubenas veut exactement savoir de quoi elle parle, quoi qu'il lui en coûte, ce qui lui a valu de se retrouver otage en Irak, en pleine guerre, comme on s'en souvient, pour nous donner un reportage plus concret que les dépêches AFP. Alors, pour explorer le marché du travail, elle s'est mise dans la peau d'une femme de ménage, quadragénaire, sans formation particulière, à part un bac général et une vie conjugale absorbante, brutalement écourtée. Elle a choisi une ville moyenne de province, en Normandie, profil idéal pour répondre, avec les arguments de l'expérience, aux Sarkozy, Hollande et autres Macron, auquel j'espère elle aura fait cadeau de son terrible quai de Ouistreham. Évidemment, un président ne doit pas avoir la moindre idée sur la question. Voilà comment on découvre qu'on peut être jeune et bachelière. Un CDI, on peut courir longtemps après. J'ai déjà fait le tour des agences d'intérim de Caen. Elles se concentrent autour de la gare, avec tout le même modèle, une pièce vide avec un comptoir. Dans l'une, la première, je crois, j'annonce triomphalement « J'accepterai tout !» Ici, tout le monde accepte tout, dit le jeune garçon derrière l'ordinateur. Je lui demande ce qu'il a en ce moment. Rien. En revanche, il voit passer toutes sortes de gens, y compris ses collègues de l'agence d'intérim d'à côté, où les licenciements ont commencé. L'une après l'autre, les agences refusent de prendre mes coordonnées. On me traite avec une douceur d'infirmière dans un service de soins palliatifs. Mais fermement. Les questions tombent, toujours les mêmes. Est-ce que j'ai une expérience dans l'intérim? Non. Alors vous ne pouvez pas être classé parmi les personnes très très sûres. Le risque zéro, précise un autre jeune homme, dans une autre agence. Aujourd'hui, les risques zéro sont les seuls auxquels les employeurs font appel pour l'intérim. On a un fichier spécial pour ça. Même pour des remplacements de 24 heures à l'usine de steak haché. Derrière moi attendent des personnes vues dans les succursales précédentes et que je reverrai sans doute dans les suivantes. Certains poussent la porte et crient depuis le seuil sans même desserrer leur écharpe. « Il y a quelque chose pour moi aujourd'hui ?» C'est non partout, ce jour-là. Je ne renonce pas à défendre mes chances pour un poste affiché en vitrine. Vente, conseil dans le domaine des bêtes, vivants et inertes, au rayon animalerie d'une grande surface en périphérie de Caen. L'employé de l'agence est presque choqué. Cette offre-là propose une très belle situation. On la considère comme le dessus du panier. Cela ne vous correspond pas du tout. Je demande, comment ça? On dirait qu'il a pitié maintenant. Mais vous êtes plutôt... Je le vois chercher un mot qui, sans être blessant, serait tout de même réaliste. Il a trouvé et fait un grand sourire. Vous êtes plutôt le fond de la casserole, madame. C'est dit sans méchanceté. J'imaginais bien que les conditions de travail pourraient se révéler pénibles, mais l'idée qu'on ne me proposerait rien était la seule hypothèse que je n'avais pas envisagée. Dans l'agence d'intérim d'en face, une jeune fille secoue la tête. « Si vous avez du piston, je peux tenter de prendre votre dossier. Est-ce que vous avez des relations ici ?»« Je ne connais personne à Caen. » Je dis « Au revoir, je repasserai. » La jeune fille sourit. « Non, je vous l'ai déjà expliqué. Ce n'est pas la peine de repasser. S'il vous plaît, madame. » C'est Pôle emploi qui m'a proposé de devenir femme de ménage. Tout s'est passé très vite. Je m'étais officiellement inscrite au chômage au début du mois de mars, sans idée arrêtée. Plusieurs offres me seraient faites, forcément. J'aurai le temps de les soupeser avant de me décider. Je voyais les choses comme ça. Dès mon premier entretien, au bout d'une douzaine de minutes, une conseillère m'a annoncé sur un ton raisonnable « La meilleure solution pour votre projet personnalisé d'accès à l'emploi est de vous orienter vers la spécialité d'agent de nettoyage. » Ça y est, c'était fait. Le jour de mon inscription, nous sommes une quinzaine à attendre dans un des 8 pôles emploi de Caen. Il y a du monde. Chaque chose semble conçue pour créer une sorte d'inconfort neutre où rien n'invite à s'installer, ni même à s'attarder, au-delà du temps strictement indispensable aux formalités. La pièce est un grand hall qui sert à la fois de comptoir d'accueil, de salle d'attente, de cabine téléphonique pour les démarches. On peut aussi y consulter les offres d'emploi sur ordinateur. Ces fonctions ne sont isolées par aucune paroi et tout s'y fait debout, derrière des sortes de guichets à hauteur d'homme, si bien que les gens semblent flotter parmi des courants d'air entre des murs aux couleurs banales, y compris les conseillers de l'agence. Eux non plus n'ont ni fauteuil ni bureau. Chacun paraît éviter le seul endroit où il serait possible de s'asseoir. Diffusé en boucle, un film de Pôle emploi répète sur le ton d'une comptine. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Certains jours, il ne se passe rien, la file d'attente s'écoule sans heurts. D'autres fois, il arrive que quelqu'un explose, soudain. Ce matin, c'est la femme juste avant moi. Elle commence pourtant posément. « J'ai été convoquée pour un travail de cantinière. Il s'agissait d'un contrat de quelques heures par jour, dans une municipalité à côté de Caen. On m'a dit « Vous êtes parfaite, vous aurez le poste en priorité. » Et puis aucune nouvelle. 2 mois plus tard, je reçois un appel pour me dire que finalement, une autre personne a été prise à ma place. Or, la personne me dit au téléphone que cette autre personne ne fait pas l'affaire. Et on me demande de me présenter à nouveau parce que finalement, c'est moi qui aurai le boulot. Au guichet, la conseillère lui explique qu'elle n'est pas au bon endroit. Ici, on ne gère pas les embauches. On s'occupe seulement de mettre en contact employeurs et demandeurs d'emploi. La femme s'en moque complètement. Elle est possédée par son histoire. C'est ici que j'ai vu l'annonce, donc vous êtes responsable. Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé. Quand cette autre personne a finalement claqué entre les doigts de la municipalité, ils se sont dit « on n'a qu'à recontacter le deuxième choix, la vieille ». Moi, quoi ? Je regarde le visage nu de la vieille, son chignon tiré, son jogging de marque, repassé avec un pli, sa main serrée sur un sac en vernis noir. Elle doit être bien plus jeune que moi. L'agent de Pôle emploi répète à la vieille qu'elle doit s'adresser à la municipalité en question. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Finalement, ils ont pris une troisième personne. Elle respire un grand coup, repart encore plus fort. « Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle ?» Elle crie maintenant. « J'ai besoin de travailler !» Je suis reçue dans une pièce au bout du couloir. Mes documents d'identité sont photocopiés, on remplit des feuilles. L'essentiel de la discussion tourne autour de la meilleure manière de me rendre au premier rendez-vous d'orientation dans une antenne différente à l'autre bout de la ville. Là, je serai aiguillée dans ma recherche d'emploi. Je dois m'y présenter l'après-midi même, au plus tard le lendemain matin. La procédure impose que l'écart entre ces deux formalités ne dépasse pas 24 heures. Ce sont les nouvelles règles de fonctionnement de l'administration. Tout doit se passer en temps et en heure pour ne pas engorger les statistiques. L'employé émet un rire discret. L'administration a l'obligation d'être performante. Elle pointe un doigt vers moi. Mais vous aussi, n'est-ce pas ? Ici Contre-Histoire, vous êtes toujours là ? On continue. Ailleurs, une conseillère me regarde approcher. En un après-midi, elle voit défiler une dizaine de nouveaux inscrits à qui il faut faire un bilan avant de les orienter. Autrefois, il n'y avait pas de limite de durée à ces entretiens. Les consignes ont commencé à les restreindre à une demi-heure, puis à 20 minutes. Entre collègues, on parle d'abattage. Tout le monde renâcle à assurer le poste. Mais les directives sont claires. Vous n'êtes plus là pour faire du social. Cette époque est finie. Il faut du chiffre. Apprenez à appeler client le demandeur d'emploi. C'est officiel. Ça vient d'en haut. Le personnel de l'administration de l'emploi a longtemps été constitué avant tout de travailleurs sociaux. Désormais, le recrutement cible d'abord des commerciaux. Le bon client, donc, a un petit diplôme, une petite expérience, une petite voiture. On appelle ça le profilage. « Vous avez un véhicule ?»« Non. » Elle me fixe. Ça commence mal. La voiture, c'est le premier critère des employeurs, même pour des activités qui ne l'exigent pas. Ça vous pose quelqu'un. Ça prouve qu'on possède au moins de quoi mettre de l'essence, qu'on n'a pas peur de sortir de la ville, qu'on a un périmètre d'action important. Femme seule, plus de 45 ans, pas de formation particulière, ni de fiche de paye récente. Dans les yeux de ma conseillère, tous les voyants rouges clignotent. Je viens d'entrer dans la zone haut risque statistique. Elle tente une dernière question. Et vous avez des enfants à charge ? Quand je lui réponds non, je la vois se détendre pour la première fois. Ma conseillère me demande ce que je veux faire. Tout ! Je pensais la réconforter sur mon sort, mais elle semble trouver ça normal. Elle parcourt mon CV qui s'arrête au baccalauréat, suit les vocations de quelques minces boulots de vendeuse ou serveuse, et puis plus rien. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 20 ans ? Je lui répète mon histoire de couple sécurisant et de rupture récente.
Comme tout le monde, quoi.
Je n'ai droit à aucune allocation. Ma conseillère me fixe, songeuse, l'air de se faire sincèrement du souci pour moi. Est-ce que vous voulez commencer une nouvelle vie? Agent d'entretien, qu'est-ce que vous en pensez? Les métiers de la propreté, c'est l'avenir. Mais il faut se décider maintenant. Le marché est en pleine structuration. Il va se refermer d'ici peu. Un cycle de formation des métiers de la propreté se met en place, avec un bac spécial. Peut-être même un troisième cycle. Dans un an ou deux, les entreprises ne prendront plus que des femmes de ménage diplômées. Ce sera trop tard pour les gens comme vous, sans qualification. Vous devez vous lancer, maintenant, sinon vous n'aurez plus aucune chance. J'annonce à ma conseillère que je suis tout à fait d'accord pour devenir agent d'entretien. J'ai droit à une formation d'une journée, métier de la propreté, à un atelier curriculum vitae et à un accompagnement de la recherche d'emploi pendant 3 mois dans un cabinet privé au titre de haut risque statistique. Une feuille indique que mes principales spécialités et conditions d'exercice sont le nettoyage courant des locaux et surfaces, le ramassage des papiers, le nettoyage des meubles et accessoires, cendriers, corbeilles, la gestion et le suivi des travaux sur plusieurs sites. Je signe en bas. Je ne suis même pas restée un quart d'heure. Plus tard, certains de mes interlocuteurs me demanderont si j'ai été forcée d'accepter ce métier. Pas du tout. J'ai même éprouvé ce jour-là une immense gratitude pour cette conseillère. Demain, je vais à Bayeux et cette perspective me met de bonne humeur. Là-bas, un forum pour l'emploi est organisé au Novotel, avec 50 entreprises, précise le dépliant. C'est à une trentaine de kilomètres de Caen. Il paraît qu'il y aura énormément d'annonces et de propositions. À l'entrée du Novotel, tout ce que Bayeux compte comme demandeur d'emploi se bouscule en brandissant une lettre de convocation. Des offres sont placardées dès le hall sur de larges panneaux, surlignés de traits de toutes les couleurs, comme à la vitrine d'un magasin. Un groupe fait déjà cercle autour de l'annonce la plus juteuse, l'orgueil du salon. Un poste de maçon, en contrat à durée indéterminée, pour 10 € de l'heure. « Et boire aussi, ça paye bien, » remarque quelqu'un. « Ça paye combien ?» questionne un jeune homme. « C'est surtout qu'on travaille seulement 4 jours dans la semaine. On est payé combien pour la formation ?»«
Il n'y a pas de formation !» « Imbécile, tu veux être formé à quoi pour balancer des sacs en plastique dans une benne ?»«
Il y a une formation, forcément. Il y a des formations pour tout.
J'ai fait une formation en réparateur de balançoire. Payez la formation. »
Chaque poste est hérissé de restrictions, barbelé d'impératifs. Tous paraissent inaccessibles. Pour la place d'hôtesse d'accueil, un contrat de 6 mois au SMIC, il faut par exemple le bac spécialisé hôtesse d'accueil. 2 ans d'expérience au moins. Le niveau bilingue anglais, un permis de conduire, la voiture qui va avec et une adresse à Bayeux. À l'intérieur du salon, un long trait de maquillage dessine des yeux de Cléopâtre à la jeune femme qui me reçoit. Elle demande « Quelle est la première chose que vous faites en arrivant ?»«
En arrivant où ?»«
Allons, madame, quand vous prenez votre poste sur un site ?»
répond Cléopâtre, lassée.
J'ai bien conscience que c'est une question piège. À vrai dire, ça sera toujours la même. Mais c'est la première fois. Je ne sais pas.
« Il faut ouvrir les fenêtres pour aérer !» lâche Cléopâtre.
Elle promet de m'appeler. Je n'aurai jamais de ses nouvelles. Ailleurs, c'est mon tour de passer devant le recruteur. Il est 10 heures du matin, il paraît à cran. Il me dit « Nous avons une place de décoratrice de magasin à pourvoir. »
« C'est exactement ce que je recherche !»
« Pourquoi ?» Je mouline dans le vide. « J'adore tout ce qui est aménagement. Je crois que j'aurai beaucoup d'idées. »
Pour nous, décoratrice, ça veut dire accrocher les affiches au plafond du magasin.
Vous serez dans une nacelle à 8 mètres de hauteur. Vous avez le vertige ?
Je recommence à mouliner dans l'autre sens.
J'adore l'escalade, le travail physique, les parcs d'attractions, les nacelles. J'ai toujours trouvé ça romantique.
Il ajoute « Il faut être sur place à 6 heures du matin. »
« Formidable, ça m'arrange, je suis une lève-tôt. »
Le stylo ne bouge plus du tout, suspendu très haut au-dessus du papier. Il dit qu'on me contactera, peut-être, en appuyant lourdement sur « peut-être ». Il me fixe en fronçant les sourcils. « De toute façon, si vous ne répondez pas au premier coup de téléphone, on téléphonera à quelqu'un d'autre. On ne peut pas se permettre de courir après les candidats. »
Il montre la pile de CV sur son bureau. Des dizaines et des dizaines de questionnaires remplis. La pointe de son stylo désigne la sortie du stand. Je comprends que mon tour est passé.
Philippe cherche du travail depuis 6 mois. La conversation sur le sujet est rapidement évacuée. J'ai déjà été en rade, mais j'ai toujours retrouvé.
Toi, c'est ton premier chômage ?
Tu vas voir. À partir du deuxième, on a moins peur. On n'en meurt plus, on sait comment faire. À condition d'accepter de repartir à zéro. Il m'explique que tous les boulots lui plaisent. Je pousse la porte du brocanteur à côté de chez moi. Il cherche une aide pour faire les vide-greniers. Il me dit que je ne fais pas l'affaire, sans explication. Quand j'insiste, il reprend son travail, comme si je n'étais pas là. Mon stage propreté commence demain. En m'y inscrivant l'autre jour à Pôle emploi, un conseiller m'a dit « Surtout, mettez des vêtements propres et pas de talons aiguilles, ni de mini-shorts. »
L'attente des formateurs. Parfois, l'un de nous va jusqu'à la rue pour scruter.
Les 2 formateurs ouvrent enfin la porte, un homme et une femme. Par réflexe, on s'est tous redressés. Eux paraissent portés par un tourbillon d'air frais. Ils sont excités, ils rient, ils marchent vite, ils font du bruit. Ils sont jeunes et sympathiques. Ça nous a tous mis de bonne humeur. Ils vont nous expliquer ce qu'est le travail d'un agent d'entretien et avertissent. Ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez. La qualité principale consiste à travailler vite. La société de nettoyage vend des heures de ménage aux différentes sociétés qui font appel à elle. Vous intervenez généralement hors de la journée de travail des autres employés, c'est-à-dire très tôt ou très tard. Si vous vous accrochez, vous arriverez à trouver quelques heures le matin dans une boîte, quelques heures le soir dans une autre, et parfois des contrats par à-coups au milieu.
Il faut en vouloir pour évoluer. Les employeurs exigent des compétences. Puis elle demande, qu'est-ce que c'est les compétences? Elle attend un peu et finit par répondre elle-même. Un ensemble de savoirs, de savoir-être, de savoir-faire. Ma voisine se penche vers moi. J'ai bien fait de ne rien dire. Attention, pour travailler dans les hôpitaux, il faut savoir lire et écrire. C'est presque obligatoire parce qu'il y a souvent des listes de consignes à consulter et appliquer. Dans un centre commercial, il peut y avoir la honte d'être vu en blouse par ses connaissances qui viennent faire leurs courses. Il faut être au clair avec son métier. Souvent, les lieux sont salis tout de suite. Vous venez de nettoyer et quelqu'un vomit exactement au même endroit. On a l'impression de n'avoir aucune reconnaissance de son boulot. Dans les bus, il faut s'habituer à nettoyer une vitre sur deux. C'est ennuyeux parce qu'on voudrait laver tous les carreaux pareil. On a été élevé comme ça, c'est normal. Ce n'est pas possible, on n'a pas le temps. Les employeurs calculent les heures de travail au plus juste. Les vitres, c'est le plus dur, mais c'est le plus coté. Un laveur de vitres trouve toujours du boulot. Il y a des concours internationaux de laveurs de vitres.
C'est toujours contre-histoire.
Maintenant, on nous montre un film. Un homme en blouse accompagné d'un aspirateur entre dans une pièce où un autre homme, en costume celui-là, est assis derrière un bureau. L'employé en blouse dit « Bonjour ». Et le formateur « Je vous montre ces images parce que ce n'est pas naturel pour tout le monde de dire bonjour. » Un des deux hommes du stage qui s'est présenté entre-temps sous le prénom de Maurice demande la parole. Il dit « Il faut aussi frapper avant d'entrer. » On me l'avait fait remarquer quand j'ai travaillé deux jours dans une société. La formatrice continue. Dans une entreprise, vous rencontrerez beaucoup de gens qui ne vous diront pas bonjour ou qui ne vous répondront pas. Ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser la tête et faire la gueule. Il faut prendre sur soi. Le ménage, c'est aussi une attitude. Dans une banque, après la fermeture des bureaux, une fille avait pris l'habitude de faire le nettoyage en sous-vêtements parce qu'elle avait chaud. Attention! Il y a des caméras de surveillance dans certains endroits. Karine hausse les épaules. Elle dit très fort.
Évidemment.
Karine a juste 25 ans. Elle est aussi la meilleure élève du stage. Elle regarde les diapositives comme n'importe lequel d'entre nous, mais il ne faut pas s'y tromper. Elle a déjà travaillé dans la propreté plus d'un an. Elle a suivi 2 mois de formation à plein temps. Elle a même connu ce qu'il est convenu d'appeler la réussite. Tout le monde se tourne vers elle et lui demande de raconter. Karine avait d'abord passé un CAP vente, par vocation. Elle garde un souvenir amer et vague de cette période, comme d'une humiliation, où la seule question que lui posaient les patrons concernait la taille de ses propres pantalons. Un mariage, un enfant, 2 enfants, du chômage et encore du chômage. Karine a été réorientée vers la propreté. Elle s'est inscrite à des cours donnés par une ancienne gouvernante de grand hôtel 4 étoiles, une maîtresse femme, qui faisait des interrogations écrites. Karine en a bavé, avant de sortir parmi les premières, ce dont personne parmi nous n'aurait douté. Et après, demande ma voisine de stage, une entreprise de propreté l'a repérée et embauchée tout de suite. La boîte était une des plus correctes de Caen. Karine avait son petit chariot, comme dans les prospectus, avec plusieurs produits, 2 seaux, des chiffonnettes en microfibre de toutes les couleurs, y compris la rose pour les toilettes. Elle croit pouvoir dire qu'elle a nettoyé tout ce qui pouvait l'être, la prison de Caen, la salle de concert du Zénith, une poissonnerie, des écoles, des hôtels. Karine était toujours disponible, même le soir, le week-end, en extra, les jours fériés. Elle était ponctuelle, elle restait de bonne humeur, même quand les heures supplémentaires n'étaient finalement jamais payées. Elle rentrait à pied en pleine nuit, le long de la voie rapide, quand son mari avait besoin de la voiture, et elle ne se plaignait pas. Karine nous regarde en abaissant ses paupières. Elle a brusquement une voix rauque et dure qu'on ne lui devinait pas. « Si tu ne fais pas tout ça, t'es mort, fini, t'existes plus, c'est du donnant-donnant avec le patron, il faut savoir rester en bas pour réussir. » la formatrice comme en écho. « On ne réclame rien au début. Vous devez d'abord faire vos preuves, apprendre à vous faire accepter. » Karine est devenue femme de ménage très en vogue, additionnant toutes les heures du matin, du soir et du milieu qu'on peut imaginer. Elle a même imposé sa loi pour laver les vitres. Normalement, faut les faire à l'américaine en passant la raclette dans un mouvement de rotation. Je leur ai dit, moi je suis française, je le fais à la française, à l'horizontale. Personne n'a osé me reprendre. Un de ces contrats s'effectuait dans une boîte grand style, une de ces sociétés en vogue où tout le monde se serait battu pour entrer, même pour y faire le ménage. La patronne avait un chien et ce chien faisait ses besoins partout. Karine a nettoyé une fois, deux fois, trois fois, à genoux sur la moquette, frottant derrière le cul du chien, la tête bourdonnante des fatigues accumulées. Un soir, elle a dit à la patronne « Il faut sortir, votre chien. Moi, j'en ai marre. » La patronne rangeait son sac. Sans se retourner, elle lui a dit « Mais c'est pour ça que vous êtes payé, non? Pour nettoyer la merde ?» La merde peut-être, mais pas celle de votre chien. Moi, j'en ai un aussi, deux fois plus gros que le vôtre, mais il est mieux dressé. » La patronne fait volte-face et s'avance vers elle, sans pouvoir dire ce qui lui était alors passé par la tête, ni réussir à le regretter vraiment. Karine s'est vue lever la main et l'écraser sur le visage de la patronne. Elle ajoute, « C'était pas très fort. » L'employeur de Karine lui a demandé ce qu'elle préférait, démissionner ou être licenciée. On lui a recommandé de suivre d'autres études. Elle a refusé. « J'ai 25 ans, deux gamins, c'est trop tard. Je ne recommence pas l'école. » Elle ne sait pas ce qu'elle va faire, des intérims peut-être. Le temps de midi, Florence et quelques autres candidates vont s'asseoir sur un banc, au soleil. Une femme scrute le soleil, les immeubles, les miettes de pain au chocolat en pluie autour d'elle. Qu'est-ce qu'on s'ennuie ? Une autre dame n'écoute pas vraiment. Elle se lève et se rassoit sans cesse, ou plutôt se dresse et retombe sur le banc, comme tractée par une force violente. Ce matin, elle n'a pas emmené les enfants à l'école. Hier non plus. Pas d'énergie. Elle jure qu'elle ira demain. Elle sait qu'elle n'ira pas. L'après-midi, stage pratique. Le jeune formateur a enfilé une blouse impeccable qui lui donne l'allure des médecins dans les publicités pour dentifrice. Il va nous apprendre à passer le balai humide. Il brandit une raclette au bout de laquelle se fixe un chiffon imprégné d'un produit qui attire et retient les poussières grâce à un procédé chimique trop compliqué à expliquer. Mais le gros morceau, c'est le monobrosse. Une machine électrique à shampouiner les sols, qui les asperge d'eau et de savon tout en les récurant. Il nous prévient. Le monobrosse, on l'appelle la bête, parce qu'elle fait peur à tout le monde. Il faut savoir la maîtriser,
sinon on court à la catastrophe. Elle peut défoncer des meubles, faut être très prudent. » Dans la salle, on pousse tous un grand « Ah !» quand il met le moteur en marche. Un des deux hommes, Maurice, s'est levé précipitamment pour saisir sa chaise par le dossier et s'en servir à la façon d'un bouclier, comme si la bête l'avait personnellement repéré et s'apprêtait à le charger. Le formateur nous calme. Il fait partir la monobrosse. Entre ses mains, la bête a souvent l'air d'un inoffensif aspirateur. Il lui fait exécuter des pirouettes, shampouiner des recoins minuscules, l'arrêter à 2 cm des pieds de Maurice, qui grimace de peur. Puis la force à repartir en marche arrière, dans un dandinement saccadé et rugissant, à la manière d'un fauve sous le fouet du dompteur. Quand il débranche la bête, on applaudit tous spontanément dans un attendrissement soulagé. On a eu peur. On a bien ri. On s'apprête maintenant à rentrer chacun chez soi. Quand le formateur annonce « Maintenant à votre tour, vous allez passer les uns après les autres et je marquerai une appréciation sur votre fiche de stage. »
Vous êtes toujours sur 92.2 Contre Histoire à Radio Canal Sud. J'espère que vous êtes toujours là.
La panique. La vraie. Une femme manque de se trouver mal. Une autre part s'enfermer aux toilettes. Une ou deux tentent de s'éclipser. Dans le tumulte, percent des phrases comme « C'est impossible, jamais j'y arriverai. Je pourrai pas le faire devant tout le monde. Les autres vont me regarder, c'est trop gênant. » Il y a des cris, des soupirs, des yeux humides. On s'évante, y compris les deux solides jeunes filles qui donnent soudain l'impression d'être conduites à l'échafaud. L'une répète « Ça y est, je suis foutue. Ça y est, je suis foutue. » Les hommes font gravement les 100 pas. « Qui veut passer le premier ?» demande le formateur, comme s'il n'avait rien remarqué. Il soupire que c'est toujours la même chose au moment des tests. Personne n'est volontaire. Quelqu'un finit par accepter. « J'ai le permis de conduire. Vous croyez que ça aide ?» Tout autour règne un silence épais, sauf Karine qui rigole. « Moi, la première fois, j'ai renversé le formateur. » L'un de nous est envoyé à côté de la prise électrique avec pour mission de la débrancher au cas où la bête deviendrait incontrôlable. Chacun arrive peu ou prou à la maîtriser, sur 2 ou 3 mètres, jusqu'à un petit muret. L'enjeu est là. Soit on parvient à faire tourner la bête pour repartir dans l'autre sens, soit on défonce le décor. Quand mon tour arrive, je réussis péniblement à ne pas me disqualifier. Maniement du balai humide et de la monobrosse, « un peu en dessous du niveau attendu », dit ma fiche. Mais elle précise « bonne volonté ». On m'a parlé d'une association de chômeurs. Je tombe sur quelques personnes qui en font partie. Stéphane et sa copine doivent être les seuls ou presque à hisser haut sur le blouson un badge « Action contre le chômage ». Stéphane n'a pas 30 ans. Il vient de se faire virer de chez Trucks, comme plus de 700 intérimaires. Dans un sourire mince, il dit « J'ai de la chance, les gars ont été sympas, ils ne m'ont pas jeté du jour au lendemain, j'ai pu finir mon contrat. » Chez Trucks, un des patrons a annoncé l'autre jour que le carnet de commandes avait chuté des 2/3. Les chaînes de montage tournent de moins en moins le week-end, les gars sont au chômage technique la moitié du mois. Dans les ateliers, on n'entend plus parler que de ça. Les départs, comme on dit. Personne ne sait ce qui va se passer, ni pour qui, ni pour combien. Parfois, des gars disent qu'il faudrait mieux partir de soi-même plutôt qu'attendre d'être jeté comme un mouchoir. Ils disent, d'une manière ou d'une autre, qu'on en finisse, on devient fou. Avant, Trucks s'était appelé Saviem, puis RVI, une des plus grosses boîtes du coin, 6 000 ouvriers à la chaîne pour les camions Renault. Du côté de Blainville, le long de l'Orne, sur l'ancien site des chantiers navals. Un jour, à la fin des années 60, la police s'était massée du côté de l'hôpital à Caen pour attendre le défilé des grévistes qui descendaient de là-bas. Bilan, 20 blessés graves. 2 jours plus tard, ceux de Saviem sont revenus. L'émeute a duré toute la nuit. Dans les années 70, les journées d'action des syndicats contre le chômage débutaient aux grenades lacrymogènes. Et finissait en vitrine éclatée, par rue entière, en plein centre-ville.
Il y avait aussi la SMN, la Société Métallurgique de Normandie, baptisée la Forteresse Ouvrière, une des légendes industrielles de Caen, avec ses 7000 bonshommes derrière des hauts fourneaux qui soufflaient leur humeur à toute la ville et terminaient généralement leurs manifestations à coups de nerf de bœuf.
C'est toujours contre histoire.
On le dit aujourd'hui, c'est miracle qu'il n'y ait pas eu de mort. Et Gégère, et Citroën, et la Radiotechnique, et Blaupunkt, qui a changé de nom 3 fois avant de devenir Valeo. Plus de 20 000 ouvriers étaient répartis dans 8 grandes usines, noués en collier autour de Caen et montrés en exemple de cette France capable de marier ses champs de pommes de terre et ses fours à coke. Cette France qui redémarre après la guerre et décentralise ses industries au milieu des marais, des canards et des bâtiments bombardés. Aujourd'hui, quelques vestiges survivent, ici ou là, des morceaux d'ateliers, toujours au bord du plan social. En moins d'un siècle, une industrie s'est construite, puis a été entièrement rayée. Moulinex fut la dernière grande à fermer en 2001, avec des négociations à Paris, des défilés, des reportages dans tous les médias de France. Dans le tram, au retour, des manifestants discutent âprement des magasins où acheter les boîtes de thon les moins chères. Une femme se fâche. « Je t'assure, entre Lidl et Champion, on passe de 55 centimes à 83. C'est sans comparaison. » Tout le monde m'avait mise en garde. Si tu tombes sur une petite annonce pour un boulot sur le ferry boat à Ouistreham, fais attention, n'y va pas, ne réponds pas, n'y pense même pas, oublie-la. Parmi ceux que j'ai rencontrés, personne n'a travaillé là-bas. Mais tous en disent la même chose. Cette place-là est pire que tout. Pire que toutes les boîtes de bâtiments turcs qui te payent encore plus mal qu'en Turquie et parfois même jamais. Pire que les ostréiculteurs qui te font attendre des heures entre les marées avant d'aller secouer les poches en mer par n'importe quel temps. Pire que dans le maraîchage qui te casse le dos pour des endives ou des carottes. Pire que les grottes souterraines de Fleury, ces anciennes carrières de pierre, puis abris antiaériens pendant la guerre, devenus aujourd'hui des champignonnières qui te laissent en morceaux au bout d'un après-midi de travail. Pour les pommes, on en bave aussi. Mais la saison commence plus tard. Ces boulots-là, c'est le bagne et la galère réunie. Tous valent mieux que le ferry de Ouistreham. Comme tous les matins, je viens d'arriver à Pôle emploi, j'y ai mes habitudes. Je connais l'imprimante qui fonctionne correctement, le téléphone où il est presque possible de s'isoler, la manière de changer le papier de la photocopieuse. En général, je rentre, je fonce en essayant de viser le seul ordinateur qui permet de consulter les annonces assis et pas debout devant un petit comptoir. Il est libre aujourd'hui. Ça doit être un signe de la Providence, j'en suis sûre. À l'accueil, un type qui transpire excessivement est en train de protester. « Je sais que j'ai pas rendez-vous, mais je voudrais juste vous demander de supprimer mon numéro de téléphone de mon dossier. J'ai peur qu'un employeur se décourage s'il essaye d'appeler et que ça ne répond pas. » « Pourquoi ?» demande l'employé. « Il ne marche plus. »« Qu'est-ce qui ne marche plus ?»« Mon téléphone. »« Pourquoi il ne marche plus ?»« On me l'a coupé pour des raisons économiques. »« Mais vous ne pouvez pas venir comme ça. Il faut un rendez-vous. »
Bon, on va se calmer, je recommence tout. Je voudrais un rendez-vous, s'il vous plaît, madame. »
La jeune femme blonde paraît sincèrement ennuyée. « Je suis désolée, monsieur. On ne peut plus fixer de rendez-vous en direct. C'est pas notre faute. Ce sont les nouvelles mesures. Nous sommes obligés de les appliquer. Essayez de nous comprendre. Désormais, les rendez-vous ne se prennent plus que par téléphone. »«
Mais j'ai plus de téléphone !»«
Il y a des postes à votre disposition au fond de l'agence. Mais je vous préviens, il faut appeler un numéro unique, le 3949, relié à un central qui vient d'être mis en place. » Il est pris d'assaut. L'attente peut être longue. Longue? Parfois plusieurs heures.
J'espère que vous êtes toujours là et que vous continuez d'avoir peur. Parce qu'il y a de quoi. Surtout que tout ça est strictement exact.
Moi, j'attends la réponse pour un poste d'agent de nettoyage dans un centre médico-social, de veilleur de nuit dans un hôtel de camp, de femme de ménage dans une parfumerie au centre commercial de Mondeville et de vendeuse dans une jardinerie. Sur l'ordinateur, le programme qui recherche les offres correspondant à mon dossier s'est mis en marche, essentiellement du ménage, un peu de vente, des travaux saisonniers. En somme, tout ce qui y passe et ne nécessite aucune qualification. Certains jours, il n'y en a plus qu'une vingtaine pour toute la basse Normandie. Mes préférées sont celles qui précisent « débutants acceptés ». Elles me donnent l'impression que des portes se déverrouillent et que quelque chose devient possible. Ça n'arrive presque jamais. Voilà des jours que je n'ai pas vu passer une proposition d'emploi à plein temps pour un contrat à durée indéterminée ou un salaire au-dessus du SMIC. Un agent de Pôle emploi m'a expliqué que c'était normal. Ce type d'emploi n'existe tout simplement plus dans votre circuit à vous. Bientôt, il n'existera peut-être plus nulle part. On ne sait pas. À Deauville, vous nettoierez les extérieurs d'un magasin de luxe, trottoirs et vitres. Vous travaillerez 1h30 par jour, du lundi au samedi, de 9h à 10h30. Expérience exigée en laveur de vitres. À Bréville, dans une collectivité, vous serez cette personne polyvalente, chargée du service à l'assiette, de la plonge, du ménage des communs, du ménage des chambres, horaires découpés, 9h, 14h30, 19h30, 22h. Travail les jours fériés et week-ends par roulement, pas de possibilité de logement, contrat à durée déterminée de 2 mois, expérience exigée de service en salle, avantage en nature, en nourriture. À Mondeville, vous nettoierez un magasin dans la ZAC de l'Étoile, le mardi, le mercredi, de 9h30 à 10h30. Vous laverez les sols, vous ferez les poussières, vous désinfecterez les sanitaires, vous viderez les poubelles. Savoir nettoyer les vitres à la raclette est un plus. Dynamisme, autonomie, minutie, rapidité, expérience exigée, savoir lire et écrire, contrat à durée déterminée de 2 jours, 2 heures au total. À Caen, rue Guillaume-le-Conquérant, chez Quick Horse, vous devrez être capable de faire des pizzas, les livrer à mobilette, entretenir les locaux. Travail 7 jours sur 7, horaire de 11h30 à 14h30 et de 18h à 23h, payé au SMIC. À Honfleur, vous nettoierez les chambres d'un hôtel en respectant les normes d'hygiène. Il est nécessaire d'être disponible pour les petits déjeuners à partir de 5h30. Pas de logement possible, langue anglaise obligatoire, expérience à un poste similaire de 2 ans. À IF, vous serez chargé de divers stages de manutention, tonte des pelouses, entretien et petites réparations, livraison de pièces auto. Votre contrat sera de 5 mois, poste réservé aux travailleurs handicapés. À Merville, Franceville, Plage, vous serez garant d'une propreté irréprochable de l'établissement. Vous aurez en charge le nettoyage des sanitaires, des mobilhomes et de toutes les structures d'accueil. Contrat de 4 heures par semaine pour 4 mois. À Caen, vous participerez à une tournée événementielle d'envergure nationale. Urgent. Je téléphone. Et incroyable, la ligne n'est pas occupée. L'homme qui décroche se présente comme le manager. Il m'explique que la tournée événementielle consiste à distribuer des échantillons de déodorant dans une rue piétonne du centre-ville un samedi après-midi. Vous avez plus de 25 ans?
Alors pourquoi vous me faites perdre mon temps? Vous savez bien que c'est un mauvais point pour ce genre de job.
Et à quoi vous ressemblez? Blonde, rousse, quel style? Glamour, roqueuse?
Je vous préviens, j'ai une pile de candidatures devant moi. Au deuxième mauvais point, je raccroche.
Dans le hall de Pôle emploi, une file d'attente se balance mollement. Une fille téléphone en riant. Je la connais, ou plutôt je la croise ici tous les jours. Elle est de bonne humeur. On va devoir donner 20 € à EDF. Pourtant, je te jure, maman, j'avais commencé à baisser le chauffage à 15 degrés. C'était trop la mort. J'ai remonté à 18. Même là, j'ai froid. Mais je n'ose pas augmenter davantage. Société de nettoyage à Ouistreham cherche employé pour travailler sur les ferries. Débutant accepté. La voilà. La voilà la fameuse petite annonce. J'appelle immédiatement, c'est irrésistible. Il faut se présenter le jour suivant, à 9h30. Nous sommes une dizaine, hommes et femmes mélangés. Il se révèle vite que le gaillard à moustache ne peut être que le patron, le grand patron. Comme je l'entendrai désigner plus tard, ou plus respectueusement encore, par son seul prénom, Jeff, par les gens du ferry, surtout les plus humbles. Jeff habite une autre ville, à plus de 100 km. Tous les jours avant l'aube, il avale 2 heures de route pour arriver sur le port au petit point du jour, un peu avant qu'accoste le premier ferry qui lui vient d'Angleterre. Jeff passe parfois à bord du ferry pendant une vacation ou une autre, avec une préférence nette pour celle du matin. Il y aura toujours quelqu'un pour rapporter la chose. « Tiens, Jeff est venu aujourd'hui. » Et alors ? Et alors, rien. Mais il traîne dans l'intonation de ce rien quelque chose qui laisse deviner, sans toutefois en éclaircir le mystère, que la journée n'aura pas été tout à fait la même pour ceux qui l'auront croisé. Jeff nous regarde l'un après l'autre, assis autour de la table. Personne n'a osé enlever son manteau. Un type a même gardé son casque de moto et ses gants, comme s'il s'attendait à se faire éconduire lui aussi, et de telle manière qu'il lui faudrait décamper précipitamment. « Vous sortez vos papiers d'identité, je les photocopie. Vous ferez une formation demain matin, vous commencerez après-demain. Il y a en général 3 ferries par jour, à 6h, 14h et 21h30. On fait le ménage pendant l'escale, entre le moment où le bateau arrive et celui où il repart. Pour commencer, vous serez embauché sur l'horaire du soir, 6 jours par semaine, congé le mercredi. Vacations à bord jusqu'à 22h30. Ça fait 1 heure payée en salaire de base. Après, on verra. Pas de questions? On passe nos documents. Une dernière chose, dit Jeff, si vous venez de Caen, il vous faut une voiture. Il n'y a pas de bus correspondant à vos horaires de travail. Je vous conseille aussi de vous regrouper pour partager les frais d'essence, sinon vous mangerez toute la paye en carburant. Vous toucherez un peu plus de 250 € par mois, avec des primes les jours fériés ou les dimanches. Il brandit nos papiers en éventail devant lui comme un jeu de cartes. Pas de regrets? Tout le monde a bien entendu? Personne ne reprend ses billes? Il me regarde. Vous avez une voiture? Je mens immédiatement. Oui, bien sûr. Jeff continue de me regarder. Si vous le dites. Il me reste à trouver une voiture pour demain. Je n'arrête pas de penser à la voiture pendant qu'un camarade me parle. Il le comprend et enfonce le clou. À ta place, j'aurais vraiment peur de ne pas en trouver une. Si tu te plantes, t'es morte. C'est marrant que t'aies pensé à trouver un boulot alors que tu n'as pas de voiture. Pour le logement, on ne te demande jamais rien, tu peux dormir sous les ponts. Mais la voiture, impossible d'y couper. T'as intérêt à te bouger pour en trouver une.
sinon t'es morte. J'ai l'impression d'être en train de rater le premier boulot, et peut-être le seul que j'obtiendrai. Il faut que je trouve une voiture. Je ne vois plus qu'une personne pour me sauver, Victoria. Une camarade rencontrée en agence d'intérim. Victoria a entendu parler d'un couple d'amis qui veut vendre une vieille voiture dont il ne se sert plus. Ils ne sont pas pressés. Ils pourraient me la prêter quelques semaines, le temps de me dépanner avant de s'en séparer. On part immédiatement la voir. Ses propriétaires l'ont surnommé le tracteur à cause de son bruit et de son allure. C'est une Fiat vieille bouteille, moteur diesel 92. Je ne peux pas m'empêcher d'embrasser ses propriétaires.
Ici Contre-Histoire, vous êtes toujours là? J'ai bientôt fini de vous faire peur.
Comme moi, Marie-Lou vient d'être embauchée. Son homme, non. Il l'accompagne parce que sans elle, il ne sait pas quoi faire. Il s'ennuie. Dans leur couple, Marie-Lou est la femme de tête. D'emblée, elle me pose la question qui la tenaille en ce moment. « Tu sais où on peut acheter des rôtis moins chers ?» Marie-Lou et son homme habitent Caen. Ils ont mis presque une heure, avec leur gilet fluorescent et leur tout petit scooter, à lutter contre les bourrasques pour parvenir aux 15 kilomètres de route. Sans nous connaître davantage, nous nous jetons dans les bras l'une de l'autre. Oui, nous ferons du covoiturage ensemble, comme Jeff nous l'a recommandé. Oui, je passerai la chercher tous les jours chez elle. Oui, nous ne nous quitterons plus. Oui, nous avons l'impression d'être sauvés parce que chacune vient d'apercevoir dans les yeux de l'autre la même inquiétude à l'idée de plonger dans le monde féroce du ferry. Marie-Lou rêve de la voiture qu'elle s'achètera un jour. De loin, à l'oreille, elle reconnaît plus facilement une voiture que n'importe quel être humain. Elle est capable de réciter les marques et les prix de tous les concessionnaires de la ville. Elle sait déjà l'auto qu'elle achètera. Et avec quelles options? Quand elle aura des sous, c'est-à-dire très bientôt. Et en tout cas, elle sera neuve, c'est sûr. Nous sommes 5 nouveaux embauchés ce jour-là à l'embarcadère. Marie-Lou et moi restons collés l'une contre l'autre en essayant de ne pas commettre d'impair. Vous deux, vous allez faire les sani. C'est le premier mot que j'apprends à bord. Sani veut dire sanitaire, qui lui-même signifie toilette. Faire les sani, c'est laver les toilettes, tâche majoritaire à bord et exclusivement féminine. Parfois, on dit à un employé homme « tu vas faire les sani ». Mais ça ne se réalise jamais. C'est forcément pour faire une blague, même avec les fortes têtes ou les souffres-douleurs. Les hommes passent l'aspirateur, l'auto-laveuse, nettoient les restaurants ou les bars, dressent les couchettes pour les traversées de nuit. Jamais ils ne frottent la cuvette des WC. Aujourd'hui donc, nous allons être formés au sani des cabines passagers. Morissette nous met dans les mains un panier en plastique avec 2 pulvérisateurs et une 20aine de chiffons. Puis nous entraîne en courant dans le premier des interminables couloirs du ferry. Si étroit qu'il faut se plaquer contre la paroi lorsqu'on se croise. Les cabines sont d'un seul côté, environ tous les 2 mètres, Morissette ouvre la porte de la première et se précipite dans l'espace minuscule où s'imbriquent 4 couchettes superposées et un cagibi de toilette, comprenant lui-même lavabo, douche et WC. Elle se jette à terre, si brusquement que je pense d'abord qu'elle a trébuché. Je veux la relever, mais sans même un coup d'œil derrière elle, elle s'ébroue pour me repousser et, à genoux sur le carrelage, se met à tout asperger avec un pulvérisateur du sol au plafond. Puis, toujours accroupie, elle chiffonne, sèche, désinfecte, astique, change le papier toilette et les poubelles, remet des savonnettes et des gobelets en une rangée impeccable au-dessus du lavabo, vérifie le rideau de douche. Tout a duré moins de 3 minutes. C'est le temps imparti pour cette tâche. Morissette se rue hors du cabinet toilette. Dans la cabine, elle époussette tout ce qui peut l'être, fait briller les miroirs, ramasse les papiers. 30 secondes. Dans le même temps et dans le même espace s'agitent au moins 2 autres employés qui changent les draps des couchettes. On dit faire les bannettes. Elle passe l'aspirateur, on dit être d'aspi. Tous réussissent à s'éviter, les bras et les jambes se croisent au millimètre près, le drap s'envole au ras des têtes sans les frôler, à un rythme parfait, que la frénésie déployée par chacun dans sa tâche et l'étroitesse du lieu rendent particulièrement spectaculaire. Une des filles chante « Il jouait du piano debout ». D'autres rythment le refrain d'un coup de hanche. Morissette se retourne. Tout doit être impeccable. Faites surtout attention à ne laisser aucun cheveu. N'oubliez pas de prendre un chiffon de couleur différente pour les water. D'éponger chaque goutte dans la douche, surtout si elle a servi récemment. De ne laisser aucun savon usagé. De jeter tous les rouleaux de papier toilette entamés. J'oublie tout immédiatement dans un effarement proche de la panique, quand Morissette annonce « Maintenant, allez-y !» Je manque me trouver mal. Elle nous fait un grand sourire. « Vous avez de la chance ?» Elle est de bonne humeur, dit une fille. En un quart d'heure, mes genoux ont doublé de volume, mes bras sont dévorés de fourmis et j'écume de chaleur dans le pull que j'avais cru prudent de garder. Je n'arrête pas de me cogner contre les gens, les meubles. Je ne suis pas loin d'éborgner une collègue avec un pulvérisateur pendant qu'elle fait les bannettes. Elle ne se trouble pas. Moi, le mois où j'ai débuté, j'avais des crampes dans tout le corps. J'ai perdu au moins 6 kilos. Régulièrement, j'entends derrière moi le cri de Morissette qui déchire le vacarme de la coursive. « Florence !» Ça veut dire que j'ai fait une connerie. « Viens là, tu ne vois rien dans la douche? Les poils, là, sur le côté. » Il faut recommencer à frotter devant elle à quatre pattes dans les sanies pendant qu'elle continue de cravacher le reste de la troupe sans regarder derrière elle. « Allez les filles, dépêchez-vous, faut tenir la cadence, on n'a pas fini !» Je repars dans l'autre sens, à garde, non sans ressentir un certain soulagement quand je me rends compte que la personne que je viens de renverser est la seule que je connaisse, Marie-Lou. Sa métamorphose est stupéfiante. « Dis donc, est-ce que t'es rouge et trempée? On dirait que t'es passée à la machine à laver. » Et elle, outrée, « Tu t'es pas vue? T'es mauve, je t'aurais pas reconnue. » Je reconduis Marie-Lou en voiture pour fêter notre nouvel attelage. Elle a déjà 2 boulots dans le ménage en CDD. Et elle précise, bien sûr. Il y a celui du matin, son préféré, pour lequel elle voudrait décrocher le CDI. Elle en énumère les qualités. Le chef est gentil, il n'y a pas trop à faire, on n'a personne sur le dos. C'est de 6h30 à 8h30, dans une grande surface avant l'ouverture. Le soir, de 18h45 à 20h, elle nettoie des bureaux chez Youpi Metal. Son supérieur l'a convoqué l'autre jour. « Vous téléphonez avec votre portable pendant les heures de travail? Vous faites la conversation avec vos collègues? Vous êtes licenciée. » Marie-Lou a reçu une lettre qu'elle n'a pas bien comprise. Il en ressortait qu'elle devait aller s'expliquer au siège de Youpi Metal, à Lisieux. Son homme a haussé les épaules. Il ne sait pas lire. Lisieux, en train, ça fait cher, et en scooter, ça fait loin. Le rendez-vous tombait à 9h, ce qui ne lui laissait pas le temps de finir son premier boulot. Toute l'affaire lui paraissait hors de prix et compliquée. Le chef lui a fait miroiter que la feuille de paye est plus intéressante quand on quitte un travail. Si tu vas toucher d'un coup le rattrapage des congés payés, des morceaux de prime, ça te fera au moins 200 € en plus. Une sorte de parachute doré, quoi. Marie-Lou s'est laissée pousser dehors. Ça fait de l'argent quand même, non? Elle a signé pour le ferry. C'était le message de Florence Aubenas. Et pour être franche, il vous reste encore 170 pages d'émotions à découvrir. Le quai de Ouistreham est dans toutes les bibliothèques et dans toutes les librairies, tellement il a eu un grand succès en 2010 quand il est sorti. Et depuis, pour les demandeurs d'emploi, on ne peut pas dire que ça se soit vraiment arrangé, n'est-ce pas? Alors, eh bien, on continuera à réfléchir sur ce thème et à chercher les explications, parce qu'il y a des explications à ce phénomène épouvantable. À bientôt, prenez soin de vous. À samedi prochain.